Ça, c'est une prison pour téléphone. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un objet qui permet de passer une soirée entre amis assez sympathiquement. C'est-à-dire qu'on ouvre, on installe les téléphones, il y a des lits, des choses comme ça. On referme. Vous entendez peut-être le... Voilà. On met un timer. Hop. Voilà. Et si vous l'ouvrez... Voilà. Tout le monde est averti. Ça, c'est une prison pour téléphone. Lors de cette soirée, si un des téléphones sonne, les personnes qui entendent le son de leur téléphone vont être préoccupées. Préoccupées parce qu'elles ne peuvent pas voir le dernier SMS qu'ils ont reçu. Préoccupées de ne pas pouvoir lire la dernière notification la plus importante du monde à leurs yeux qu'ils ont reçue. Ils vont être plus ou moins là, distraits. Mais si ce n'est pas le vôtre, peu importe. Parce que vous connaissez la sonnerie de votre téléphone. Qu'en est-il des appels de Dieu? Est-ce que vous les reconnaissez? Quand Dieu vous communique une info importante, le syndrome de connaître la dernière info importante, vous connaîtrez peut-être ça si vous avez des ados, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez écouter l'appel de Dieu? Je vous propose de continuer dans le livre d'Amos, du prophète Amos. On va regarder, il va nous parler de l'appel de Dieu. Donc Johannel va vous distribuer un texte, c'est le support, c'est le texte, ça vous évite à chercher dans votre Bible, et si vous n'en avez pas, et ça vous permet de prendre des notes, si vous le souhaitez. Mais il ne distribue pas de stylo. Amos est un prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ. Amos est un prophète du royaume de Juda, il habite en Juda, plus précisément à Tekoa, un Tekoïte, il est Tekoïte, et il prophétise pour le royaume du Nord, pour le royaume d'Israël. Dans les premiers chapitres, Amos va dire au peuple d'Israël, ce n'est pas parce que vous êtes le peuple élu, le peuple de Dieu, que vous êtes meilleur que les autres. Vous n'êtes pas meilleur que les nations autour de vous qui égorgent les femmes enceintes, qui discriminent les pauvres. Vous n'êtes pas meilleur qu'eux. Vous avez tout autant besoin de mon pardon, de ma grâce. Et ça, je vous renvoie à la prédication du 14 avril, si vous voulez plus savoir. Là, Amos continue son interpellation pour le peuple d'Israël en leur montrant en quoi ils n'ont pas réussi à écouter les appels de Dieu. Il va leur proposer deux raisons. Quand vous recevez les feuilles, vous verrez, des versets 1 à 3. La première raison, c'est qu'ils ont une relation, leur relation sociale, qui est complètement déformée. Ça les bloque la communication avec Dieu, d'une part. La deuxième raison, c'est leur relation avec Dieu lui-même, où ils font un peu n'importe quoi. Deux raisons, ça sera des versets 4 à 5. Ensuite, Dieu, Amos, rappellera tous les appels que Dieu a lancés. Des versets 6 à 12. Je vais commencer la lecture. Écoutez bien ceci, ô vaches du Bazan qui demeuraient sur les montagnes de Samarie, qui opprimaient les pauvres, qui maltraitaient les indigents, vous qui dites à vos maris, apportez-nous à boire. Le Seigneur l'Éternel a juré. Aussi vrai que je suis saint. Voici venir des jours où l'on vous traînera vous-même avec des crocs et vos suivantes avec des hameçons. Vous devrez sortir par les brèches. Chacune devant soi, vous serez chassés vers l'Hermon. L'Éternel le déclare. Allez donc à Bethel et transgressez la loi. Et à Gilgal, transgressez-la encore plus. Offrez tous les matins vos sacrifices et le troisième jour vos dîmes. Faites brûler de la pâte levée pour les offrandes de reconnaissance. Claironnez vos dons volontaires, proclamez-les à haute voix, puisque c'est là ce qui vous plaît, Israélites. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Moi, je vous ai laissé le ventre vide dans toutes vos cités. J'ai fait manquer du pain dans toutes vos bourgades. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi, l'Éternel le déclare. Et moi encore, je vous ai refusé la pluie 3 mois avant le moment des moissons. Ou bien j'ai fait pleuvoir sur telle ville et non pas sur telle autre. Un terrain recevait la pluie, un autre n'en recevant pas, était tout à fait sec. Les gens des deux ou de trois villes se traînaient vers une autre pour demander de l'eau à boire, sans pouvoir étancher leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, l'Éternel le déclare. Et je vous ai frappé par la rouille et la nielle. Et puis j'ai desséché vos jardins et vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les criquets. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi, l'Éternel le déclare. Et j'ai déchaîné contre vous la peste, comme je l'avais fait contre l'Égypte. J'ai tué par l'épée vos jeunes gens, tandis que vos chevaux ont été capturés. J'ai fait monter à vos narines la puanteur des morts tombés dans votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi, l'Éternel le déclare. J'ai produit parmi vous des bouleversements comme j'en ai produit à Sodome et Gomorre, et vous avez été comme un tison sauvé du feu. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi, l'Éternel le déclare. C'est pourquoi Israël, voici comment j'agirai avec toi. Et puisque je vais agir contre toi, tiens-toi prêt, Israël, à rencontrer ton Dieu. Je vais prier. Notre bon Père Céleste, nous te prions encore que ton esprit nous éclaire durant ce temps autour de ce texte. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire, à nous aussi. Aide-nous à comprendre ce que tu as voulu communiquer à ce peuple, à ton peuple. Et Seigneur, rends-nous malléables en cours à toi. Aide-nous à écouter ce que tu viens de nous dire. Amen. Comme vous avez une feuille, je vous propose de prendre 2 minutes pour relire pour vous le texte. Et après, comme ça, vous commencez à vous imprégner. Et après, je recontinuerai. Ce n'est pas un texte qui est facile. Déjà, les premiers chapitres ont été assez difficiles à entendre. Et là, on va continuer un peu. Bien sûr, la prochaine fois, le 11 août, ça sera plus agréable à entendre. La première raison que j'ai énoncée tout à l'heure, qui les empêche d'avoir une relation, une communication avec Dieu, c'est leur relation sociale, leur relation avec les uns et les autres. Les versets 1 à 3. Il compare les femmes à des vaches du Basan. Le Basan est une région assez fertile où il fait bon vivre quand on est une vache. Les terrains sont propices pour s'engraisser et pour avancer convenablement. C'est à ça qu'il compare les femmes du peuple d'Israël. Ce que Dieu dénonce dans des versets 1 à 3, c'est pas que que le peuple se porte bien, qu'il soit riche. Ce que Dieu leur reproche, c'est d'opprimer les pauvres, les maltraiter, maltraiter les indigents. C'est ça que Dieu reproche au peuple d'Israël. C'est pas de prendre en considération les gens les plus démunis autour d'eux. Et au chapitre 5, il rappellera qu'ils oppriment le juste, qu'ils acceptent des pots de vin pour léser le droit des pauvres. Tout ça dans quel but? Dans le but d'acquérir de plus en plus de richesses. Dans le but de s'allonger sur des lits incrustés d'ivoire, au chapitre 6, verset 4. Pour se vautrer sur des divans moelleux et faire des orgies. Voilà pourquoi le peuple a besoin de toujours plus de richesses, chapitre 6, verset 4. On voit le peuple représenté par ces femmes. Ils ne pointent pas du doigt les femmes, proprement parler, hein. Je tiens aussi à l'avancer. Ils pointent du doigt le peuple, hein, par l'intermédiaire des femmes. Il leur dit, vous n'en avez jamais assez. Vous voulez toujours plus. Et au détriment des autres. Mais Dieu ne voit pas les choses de la même façon. C'est ce que vous voyez des versets 2 à 3. Il n'est pas du tout d'accord. Il va les juger pour ce qu'ils font. On pourrait se dire que c'est assez caricatural ce que Amos reproche au peuple. Comment le peuple ne comprend pas ce qui se passe? Comment le peuple est à ce point de vue-là, à cet état-là? Mais après, des versets 6 à 12, on verra comment Dieu a parlé de plus en plus fort, entre guillemets, au peuple. Le peuple s'est éloigné progressivement de Dieu. C'est pas arrivé d'un coup d'un seul. Le peuple a commencé petit à petit à arriver dans une extrême injustice, comme on peut voir là. Le peuple pense juste à se satisfaire à tel point qu'ils arrivent à opprimer les pauvres, à maltraiter les autres. Et comme nous rappelle le chapitre 1 et 2, et même comme les nations païennes, à égorger des femmes enceintes. C'est aussi une image, mais à une extrême injustice. Cette injustice qu'ils ont les uns envers les autres les empêche d'avoir une relation honnête avec Dieu. Ils sont pas honnêtes avec Dieu parce qu'ils se cachent. Ils font n'importe quoi avec leurs semblables. La deuxième raison, c'est comment ils pratiquent leur culte, comment ils adorent Dieu. C'est ce qu'on peut voir des versets 4 à 5. Il leur dit, allez donc à Bethel et transgressez la loi, et à Gilgal, transgressez-la encore plus. Offrez tous les matins vos sacrifices et le troisième jour vos dîmes. Faites brûler de la pâte levée pour les offrandes de reconnaissance. Claironnez vos dons volontaires, proclamez-les à haute voix, puisque c'est là ce qu'il vous plaît, Israélites. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Il leur reproche, alors, au premier abord, ça paraît pas mal, hein. Ils font des dons volontaires, ils vont offrir la dîme tous les trois jours, ils font des sacrifices, ils font brûler la pâte levée. A priori, ça paraît bien. A priori seulement. Ils vont à Bethel et à Gilgal. Le lieu où on fait le sacrifice reste Jérusalem. Je le disais tout à l'heure, Amos est un prophète du peuple d'Israël qui prophétise pour le royaume de Juda. Et au moment de la séparation du peuple en deux, le royaume du nord et le royaume du sud, on a le roi du royaume du nord qui avait peur justement que ses sujets aillent dans l'autre royaume pour faire les sacrifices, donc à Jérusalem. Et il a mis en place deux villes, une au nord et une au sud dans son royaume, pour que les gens fassent les sacrifices là et n'aillent pas dans l'autre royaume. Et Bethel est une des villes qu'il a mis en place, où il avait érigé un veau d'or. Comme ça, les gens restaient là, sur place. Les gens, le peuple d'Israël, continue de faire les sacrifices à Bethel et pas à Jérusalem. Donc c'est un premier problème. Gilgal, c'est un sanctuaire qui évoque aussi la traversée du Jourdain. C'était un premier lieu. Ils ont fait une commémoration. Mais c'est pas non plus le lieu où ils doivent aller pour faire les sacrifices. Ça reste Jérusalem. Premier problème. Le deuxième problème, c'est le type de sacrifice qu'ils font. Comme je disais, ça donne l'impression que c'est bien. Ils font des offrandes, des dîmes tous les trois jours, pardon. Mais quand on relit le livre du Lévitique, Deutéronome, Nombre, il n'est jamais question de faire des offrandes de dîmes tous les trois jours. C'est dit, il parlait d'offrandes, de dîmes, mais il n'est jamais question de trois jours. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas s'ils ont collé un rite païen, ou un culte des nations étrangères, ou si c'est un excès de zèle qu'ils ont voulu faire ça pour faire bien. Mais en tout cas, ce n'est pas ce que Dieu demande. Ils font brûler de la pâte. Encore une fois, ça donne l'impression que c'est bien, mais ils font brûler de la pâte levée. Or, Dieu ne veut pas que la pâte soit levée. Ça donne l'impression que c'est bien, mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Ça paraît bien, ils font des offrandes, ils font des dons volontaires. C'est super quand même, hein, des gens qui s'élèvent spontanément pour faire des dons. Mais après, ce qu'il nous est dit, c'est qu'ils le font pour le proclamer à haute voix, pour être vu des autres. C'est dans ce cadre qu'ils font les offrandes volontaires. Et Dieu en a marre d'un peuple comme ça. Dieu leur dit, arrêtez de vous cacher, arrêtez de faire semblant de m'aimer en m'offrant des choses que je n'ai pas demandées. Et vous savez bien que je ne les aime pas. Arrêtez. Si vous voulez transgresser la loi, continuez. Si vous voulez vous montrer, faire des choses, faire les cadors, continuez. Mais arrêtez de dire que c'est pour moi. Arrêtez de me prendre pour un imbécile. Arrêtez de me prendre pour un imbécile. Je suis Dieu, le Créateur. Chapitre 5, versets 21-23, Amos, ou Dieu, par l'intermédiaire d'Amos, dit « Je déteste vos fêtes, je les ai en dégoût. Je ne veux plus sentir vos rassemblements cultuels. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas et je ne peux pas voir cette bête engraissée que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes. » Dieu en a marre d'un peuple qui fait n'importe quoi. Dieu, à la fin de ce qu'on vient de lire, verset 5, il dit, c'est ça ce qui vous plaît. Vous faites ce qu'il vous plaît, vous ne faites pas ce qu'il me plaît. L'idée d'un culte, c'est faire ce que Dieu aime. Ce n'est pas faire ce que Dieu n'aime pas. On ne rend pas un culte, on n'adore pas quelqu'un en faisant quelque chose qu'il n'aime pas. Je ne peux pas dire que j'aime Hélène en lui montrant par des choses qu'elle n'aime pas. C'est complètement absurde. Et Dieu leur dit, arrêtez, j'en ai marre. Je vous les ai lancé plein d'appels. Je n'ai pas arrêté de vous appeler. Mais malgré cela, vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi. Les versets 6 à 12. Vous n'avez pas écouté tous mes avertissements, dit Dieu. Je n'ai pas arrêté de vous avertir en vous laissant le ventre vide, sans pain, en vous refusant la moisson, en vous frappant par la maladie dans les cultures, par les criquets, par la peste, par la mort des jeunes gens, à tel point que la puanteur des morts était présente dans le camp. J'ai produit des bouleversements comme en Égypte, comme à Sodome et Gomorre, des événements que vous connaissez comme étant signé de ma main, un référentiel pour vous. Vous connaissez ces événements. Et malgré cela, vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi, l'Éternel le déclare. Dieu use d'avertissements, mais à aucun moment, il les a anéantis. À aucun moment, Dieu les a exterminés. Dieu leur a laissé toujours une porte de sortie. Il leur a toujours proposé une écoute, un rétablissement. Et c'est ce qu'on verra à proprement parler la fois prochaine. Mais on verra que Dieu leur propose une porte de sortie. Vous pouvez encore revenir à moi, malgré que vous êtes pourris. Dieu, quand on parle de l'amour de Dieu qui nous confond, l'amour de Dieu, Dieu nous connaît tel que nous sommes, et c'est dans ce cadre-là qu'on voit que son amour est puissant. Parce qu'il nous connaît vraiment tous nos défauts. Et il nous aime quand même. Et ça nous met en porte, ça nous déstabilise de voir un tel amour. Et Dieu leur propose encore ce tel amour. Revenez à moi. Arrêtez de faire ce qu'il vous plaît et faites ce qu'il me plaît. Le peuple de Dieu à ce moment-là s'est cru arriver. Il s'est cru être Dieu lui-même. n'ayant plus aucun conseil à recevoir de Dieu. C'est le principe du péché, de décider soi-même ce qui est bon ou pas. Dans les avertissements de Dieu, dans les appels que Dieu a lancés au peuple, il y a eu une gradation. Il n'a pas été directement à la fin avec les morts, avec des événements comme à Sodome et Gomorre. Non, il a été progressivement. Il a voulu les interpeller. Et je dirais, pour prendre un peu une image, il a parlé de plus en plus fort. Moi, quand je parle à ma fille, je dis gentiment, bon, maintenant tu arrêtes. Tu arrêtes. Si tu continues, à trois, je vais parler plus fort. Je parle plus fort, elle se met à pleurer. Et je dis, ok, maintenant c'est bon, on peut reprendre. Et il y a une évolution. Je crie pas, je parle pas fort d'un coup, je vais pas la reprendre physiquement d'un coup. Il y a une évolution. Et au bout d'un moment, il peut y avoir des points de non-retour. Mais en tout cas, là, Dieu, il y a une évolution. Il commence par des petites choses. Il parle de laisser le ventre vide. Je vous ai fait manquer de pain. Ça évolue. Ça évolue. Il les interpelle par des événements qu'ils connaissent. L'Égypte, c'est l'événement, un des événements majeurs, ou l'événement majeur dans l'Ancienne Alliance. Et un gros référentiel pour le peuple à l'Égypte, la sortie d'Égypte. Et quand ils produisent des événements comme il a produit en Égypte, ça ne fait pas de titre dans leur tête. En tout cas, si ça fait de titre, ils le laissent de côté. Sodome et Gomorre, pareil. C'est des référentiels qu'ils connaissent. Mais rien. Dieu a été de plus en plus fort et a montré des choses de plus en plus claires. Et pas de retour du peuple. Malgré cela, ils n'ont pas reconnu les appels de Dieu. Dieu leur dit au verset 12, « Tiens-toi prêt, Israël, à rencontrer ton Dieu. » Il continue dans le chapitre en leur disant, « Voici quel est mon nom. » Il va refaire une définition de qui il est, parce qu'ils ont complètement oublié qui il était. Il va refaire une définition qu'il est créateur, qu'il a créé plein de choses. Enfin, je ne vais pas empiéter sur le 11 août, mais il va rappeler toutes ces choses. Donc, je vous invite à revenir le 11 août, bien entendu. Et alors, j'ai voulu insister sur le fait que c'est un adversaire assez pesant, assez lourd. Et ça nous paraît un peu bizarre. Mais encore aujourd'hui, Dieu nous appelle et nous rappelle sans cesse. Qu'on soit chrétien ou non, Dieu nous appelle à le suivre. Et on l'a chanté grâce au sang du Christ qui nous retrace le chemin vers le Père. L'appel de Dieu est constant encore aujourd'hui. Et il dira dans l'Épître aux Hébreux, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Sois attentif à mes appels. Écoute-moi. Écoute-moi. Comment reconnaître ces appels? Comment reconnaître les appels de Dieu? Des fois, on a l'impression qu'il nous parle peu. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec Alain. Il nous a parlé des silences de Dieu. Mais des fois, on n'arrive pas à les reconnaître. On ne les entend pas. On peut se poser la question, quelle place je lui laisse pour pouvoir reconnaître ses appels, pour laisser la place de m'interpeller. On a vu à travers ce texte qu'il y a deux choses qui empêchent de reconnaître les appels de Dieu. Notre hypocrisie envers lui, c'est à vous de voir comment vous vivez votre relation avec Dieu, mais des fois on peut être hypocrite dans notre relation avec Dieu, dans la relation qu'on a avec les autres, que ce soit dans la communauté ou en dehors de la communauté, notre pratique, notre éthique sont des facteurs qui peuvent nous empêcher d'être en relation avec Dieu. Nous-mêmes, on se met dans des situations où on n'a pas forcément envie de revenir vers Dieu, on se sent des fois un peu mal à l'aise, mais au final, on reste là et puis on s'engraine et on continue. Et on va de plus en plus loin. Et des fois, on va trop loin. Mais des fois, ce n'est pas ce cas-là. Des fois, on est des chrétiens, on essaie de vivre le mieux possible avec notre Seigneur, de l'aimer le mieux possible avec nos capacités, mais des fois, on n'arrive toujours pas à entendre ses appels. Je propose une petite histoire. Imaginez que vous partez en voyage, et là, dans un endroit que vous ne connaissez pas. Et là, dans la rue, une personne appelle votre prénom. Est-ce que vous allez vous retourner ? Maintenant, vous êtes dans votre ville. Donc si vous êtes dans la ville où vous habitez, vous connaissez des personnes, il y a vos amis, vos collègues, si vous êtes étudiant, il y a vos profs, il y a toute la communauté que vous connaissez est présente. On vous appelle par votre prénom. Qu'est-ce que vous allez faire ? Très certainement, dans le premier cas, vous allez tracer. Vous n'allez pas prêter attention. Mais dans le deuxième cas, vous allez vous retourner. Ah, quelqu'un m'appelle. Vous allez chercher un petit peu par-ci, par-là. Et potentiellement, vous allez discuter avec la personne qui vous a appelé. Potentiellement. Si vous n'êtes pas trop sauvage. Pourquoi ? Parce que dans le premier cas, vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes pas disposé à écouter votre prénom. Vous n'êtes pas disponible à rencontrer les personnes. Enfin, en tout cas, disposé, pardon, pas disponible. Mais vous n'êtes pas disposé à rencontrer les personnes. Ce n'est pas l'endroit favorable pour ça. Ce n'est pas le contexte. Ça, ça paraît être normal. Si on ne demande rien à Dieu, si on ne lui parle pas, ou si on n'est pas précis dans nos discussions avec Dieu, on ne lui donne pas l'opportunité de nous interpeller. Si on lui demande de nous guider sur des choses précises, ces choses-là, du coup, on va rechercher, on va se mettre dans un cadre, on va rechercher la présence de Dieu, la face de Dieu. Et dans ce cas-là, Dieu va nous parler, que ce soit à travers une lecture, à travers un frère, à travers une personne lambda dans la rue ou un ami que vous connaissez qui n'est pas forcément chrétien. Dieu parle aussi par des personnes qui ne sont pas de notre confession. Dieu peut nous parler comme ça aussi. En tout cas, si vous demandez des choses à Dieu, précisément, et vous recherchez des réponses ou un dialogue avec Dieu sur ce sujet, Dieu va vous répondre. Dieu va vous répondre. On sera prêt à être interpellé. C'est clair que ça demande un effort. Ça demande un effort d'être... Justement, il ne faut pas être au taquet de tout ce qui se passe. Je ne parle pas d'analyser tous les événements et mais de prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe. Nos ressentis, je tiens quand même à le préciser, ne sont pas les plus objectifs possibles. Ce sont des indicateurs pour nous montrer des fois dans quelle direction aller, mais ce n'est pas ça qui fait sens, ce n'est pas ça la vérité. Ce qui est objectif reste la parole de Dieu. Et les indicateurs de nos émotions nous aident à nous recadrer par moment. Pour continuer quand même, c'est une parenthèse que je veux quand même ouvrir. Des fois, on a l'impression qu'on pêche alors qu'on n'a pas péché. Des fois, on n'a pas l'impression de pécher, mais on pêche. C'est la Bible, c'est Dieu qui nous déclare qui est juste ou pas. Nos émotions, ce qu'on ressent est bon, ce sont des indicateurs qui nous aident à soit changer de direction, soit continuer, ça peut nous aider. C'est pour ça que je ne dis pas d'interpréter tous les événements qui vous arrivent. Ce que je veux dire, par exemple, quand vous un souci précis, une question précise à Dieu, comment vous allez gérer cette situation ? Souvent, on prie. J'ai l'impression qu'on prie, et deux secondes après, déjà, on ne se souvient même plus de ce qu'on a prié, ce dont on a prié. Alors, je ne demande pas 3 heures après, hein. Mais très rapidement, on ne s'en souvient plus. Ça, c'est la courbe de l'oubli de la fois précédente. On oublie ce dont pourquoi on a prié. On oublie. Quand se remettre devant Dieu, c'est se souvenir à chaque moment ce dont pourquoi on prie. Et ça, ça va nous aider à nous reconnecter à Dieu. À essayer de dire, OK, j'ai prié pour ça. Je me souviens, je continue de prier pour ça, je continue de prier pour ça. Et Dieu, à un moment donné, va vous parler pour ça. C'est la persévérance dans la prière. C'est ça que je dis d'être réceptif à écouter Dieu nous parler, à persévérer dans notre demande à Dieu ou dans notre relation avec Dieu. Mais la vraie question reste toujours la même. Quelle est la relation que j'entretiens avec Dieu, avec l'Éternel ? Pourquoi au final je suis chrétien ? On se pose la question. Hein. On ne se pose pas souvent cette question. Pourquoi je reste chrétien ? Qu'est-ce que je vis avec Dieu ? Quelle est ma relation avec Dieu? Quel vrai temps je mets à part pour faire le point avec Dieu? Pas, encore une fois, de se tordre la tête tous les jours pendant 2 heures. Non, mais régulièrement prendre un temps avec Dieu pour faire le point. Amos met en évidence l'endurcissement du cœur du peuple. Le but, c'est que nous endurcissions, notre cœur ne fasse pas comme le peuple d'Israël, qu'on ne s'endurcisse pas à notre tour. Attention à ça. Amos nous met en garde contre ça. Comment écoutez-vous Dieu? Est-ce que vous laisserez le temps de vous parler pendant les vacances? Écoutez-vous les appels de Dieu? Est-ce que vous les écouterez durant cet été, vos temps un peu calmes, comme nous le rappelait Sophie? Je laisse un temps de silence et je prierai. Entre-moi tous. Père Céleste, ton amour nous confond, ton amour est dément pour nous, en tout cas il est très grand plutôt. Seigneur, tu nous connais tel que nous sommes et nous te prions de nous aider à garder ta main, nous aider à que ton esprit nous remplisse encore, que ton esprit nous aide à garder ta main dans la nôtre. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi pour ne pas nous endurcir. Nous avons besoin de toi parce que c'est toi qui es la source de toutes choses. Et Seigneur, vraiment que tu nous aides à avancer vers toi. Seigneur, aide-nous à faire le tri. Aide-nous à faire le tri dans nos activités, des fois, pour prendre du temps avec toi. Seigneur, aide-nous à regarder ce que nous faisons avec nos frères et sœurs, avec les gens autour de nous. Aide-nous à être objectif sur notre relation avec toi, de voir comment ce que nous faisons de mal, peut-être. En tout cas, Seigneur, nous voulons mieux te connaître mieux, Seigneur, être de plus en plus semblable à ton Fils. Seigneur, nous voulons, non pas, comme le peuple d'Israël, opprimer les pauvres, mais avoir un cœur généreux pour eux, être sensible à eux, les Pères Célestes. Merci de ce que tu nous apportes, ce que tu nous donnes au quotidien. Merci de ta présence. Merci de tous tes bienfaits, toutes tes grâces que tu nous donnes par l'intermédiaire des frères et sœurs. Dans le nom du puissant de ton Fils Jésus. Amen.